VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 30 août 2022. Avec vous, Eric Manenakiza, voici d'abord le sommaire. En Angola, l'opposition rejette la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives. Au Kenya, la Cour suprême retient 9 sujets pour statuer sur les résultats de la présidentielle. Au Soudan du Sud, 22 000 combattants de factions rivales intègrent les forces de sécurité unifiées. Contre-offensive ukrainienne dans le sud, violents combats signalés autour de Kherson. À Bagdad, les partisans du leader chiite Muqtada Sadr se retirent de la zone verte sur ordre de leur chef. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Angola, l'opposition conteste la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives. Les résultats définitifs ont donné un second mandat au président sortant João Lourenço à l'issue du scrutin le plus serré de l'histoire du pays. Les précisions de John Lyndon.
L'UNITA ne reconnaît pas les résultats de la Commission nationale électorale et va déposer un recours suspensif, a indiqué le secrétaire général de ce parti, Alvaro Chikwamanga Daniel, dans une déclaration vidéo enregistrée et transmise aux médias. Le parti mené par Adalberto Costa Jr., 60 ans, affirme ne pas avoir été informé de la décision de la commission d'entériner les résultats, ni avoir reçu copie du procès-verbal du dépouillement. À la tête du pays, depuis son indépendance en 1975, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a recueilli 51,17% des voix selon la commission électorale, contre 43,95% pour l'UNITA. 4 des 16 membres de la CNE n'ont pas signé les résultats finaux, exprimant des doutes sur le processus.
La Cour suprême du Kenya a annoncé mardi avoir retenu 9 sujets à examiner dans les recours contestant les résultats de l'élection présidentielle du 9 août. Il s'agit notamment des suspicions de fraude et piratage qui pourraient faire annuler le scrutin. Les auditions sur le fond doivent débuter demain mercredi. Les 7 juges devront notamment déterminer si le serveur de la commission électorale a été piraté et s'il y a eu des interférences dans la transmission électronique des formulaires de résultats. Ils entendent également évaluer si la technologie électorale répondait aux normes d'intégrité, de vérifiabilité, de sécurité et de transparence. La décision de la Cour suprême est attendue le 5 septembre. Si la Cour suprême annule l'élection, un nouveau scrutin doit avoir lieu dans les 60 jours. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi être prêt à s'expliquer devant la nation et à assumer son entière responsabilité dans une affaire embarrassante de cambriolage une fois que l'enquête le visant serait bouclée. Monsieur Ramaphosa a assuré qu'il coopérait avec les autorités, mais a refusé de fournir des détails sur ce cambriolage et qui lui vaut des accusations de blanchiment et corruption. La réponse la plus appropriée de mon côté est que la loi suit son propre cours, a déclaré M. Ramaphosa lors d'une session parlementaire houleuse en visioconférence. Les fortes pluies qui tombent au Niger depuis juin ont fait 75 morts et plus de 100 000 sinistrés selon un nouveau bilan. Le gouvernement nigérien et ses partenaires assurent avoir distribué plus de 628 tonnes de céréales aux personnes sinistrées. L'UNICEF dit avoir fourni 2500 kits de biens non alimentaires. Les services météorologiques annoncent de nouvelles grosses précipitations dans le pays jusqu'à la fin septembre. Au Soudan du Sud, près de 22 000 combattants de factions rivales ont officiellement intégré ce mardi les nouvelles unités de l'armée et de la police en application de l'accord de paix de 2018. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Lors d'une cérémonie à Djouba, ces hommes et femmes issus des forces loyales au président Salva Kiir, à son rival le vice-président Riek Machar et au mouvement de l'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud ont prêté serment. Ils rejoignent les rangs de l'armée, la police et d'autres corps. Cette unification des forces est une des principales dispositions de l'accord de paix signé en février 2018 pour mettre fin à 5 ans d'une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés. Les deux camps ne parvenaient pas à s'entendre sur la répartition des postes au sein du commandement unifié. Un accord a finalement été trouvé en avril. La cérémonie s'est tenue en présence des dirigeants ougandais Yoweri Museveni et soudanais Abdel Fattah al-Burhan. Les nouveaux soldats et policiers portaient des matraques au lieu d'armes à feu en raison d'un embargo sur les armes imposé depuis 2018 par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Les rebelles de la région éthiopienne du Tigré ont dit mardi rester ouverts aux négociations avec le gouvernement fédéral, mais déterminés à continuer de progresser dans le nord du pays tant que ses renforts militaires continueront de menacer leur région. Ils ont progressé d'une cinquantaine de kilomètres au sud de la frontière du Tigré à l'intérieur de la région voisine de la Mara, ainsi qu'au sud-est en région Afar. Les combats ont repris le 24 août entre armée fédérale et troupes rebelles tigréennes qui s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Les gendarmes de Madagascar ont confirmé mardi avoir tué 19 personnes en tirant sur une foule en colère qui avait tenté la veille d'entrer dans leur caserne pour faire justice elle-même après la disparition d'un enfant albinos. Un navire affrété par l'ONU transportant 23 000 tonnes de blé ukrainien destiné à des millions de personnes souffrant de la faim en Éthiopie est arrivé mardi matin au port de Djibouti. Cette livraison nourrira 1,5 million de personnes pendant un mois en Éthiopie, a déclaré le directeur général, le directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden se rend aujourd'hui en Pennsylvanie pour parler insécurité et armes à feu, le premier de trois déplacements dans cet État clé des prochaines élections législatives. Le président américain a notamment promis jeudi un grand discours sur la nécessité de sauver l'âme de l'Amérique qu'il prononcera à Philadelphie, ville de Pennsylvanie, considéré comme le berceau de la nation américaine. Monsieur Biden veut marteler à la fois un message de fermeté face à la criminalité et promettre de nouvelles réformes pour encadrer les armes à feu, alors que les fusillades ne cessent d'endeuiller l'Amérique. De violents combats se déroulent ce mardi dans le sud de l'Ukraine où les troupes de Kiev ont lancé une contre-offensive dans l'espoir de reprendre la ville de Kherson aux mains des Russes. Michel Joseph.
D'après la présidence ukrainienne, de puissantes explosions ont eu lieu toute la journée de lundi et toute la nuit dans la région de Kherson. L'armée ukrainienne dit avoir détruit un certain nombre de dépôts de munitions et tous les grands ponts permettant aux véhicules de traverser le fleuve Dniepr afin de couper l'approvisionnement de l'armée russe en provenance de la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Le député Sergueï Klan a évoqué à la télévision ukrainienne de puissantes attaques d'artillerie sur les positions ennemies. La Russie a pour sa part affirmé avoir repoussé des tentatives d'offensive ukrainienne dans les régions de Kherson et de Mykolaiv. Selon l'armée ukrainienne, les Russes ont bombardé Mykolaiv lundi avec 16 missiles qui ont provoqué des dégâts importants sur des bâtiments d'habitation. Le gouverneur de la région de Zaporizhia, Oleksandr Starouk, soutient que la Russie a lancé une attaque avec des missiles contre la ville éponyme. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts importants, selon la même source.
Et les ministres de la Défense de l'Union européenne ont convenu mardi, lors d'une réunion informelle à Prague, d'entamer les travaux préparatoires d'un plan de formation des soldats ukrainiens par Bruxelles. En Irak, la tension baisse d'un cran après que les partisans du leader chiite Moqtada Sadr ont commencé à se retirer mardi de la zone verte à Bagdad. Au moins 30 personnes ont été tuées et 570 blessées. Le président irakien Behram Saleh a estimé que la tenue d'élections législatives anticipées permettrait de sortir de la crise son pays. Abdulrahman Dia.
C'est sur un ton ferme que le leader chiite a demandé à ses partisans de se retirer des lieux qu'ils occupaient dans la zone verte et de l'endroit du sit-in devant le Parlement. « Je présente mes excuses au peuple irakien, seul affecté par les événements », a ajouté Moqtada Sadr. L'armée a aussi levé le couvre-feu décrété hier. Aussitôt après l'annonce de l'influent politicien de son retrait de la vie politique, des milliers de ses partisans ont envahi le siège du gouvernement dans la zone verte hier. Des combats ont ensuite éclaté entre partisans de Moqtada Sadr et ceux du cadre de coordination, une alliance rivale qui regroupe des factions pro-Iran. Washington avait aussitôt appelé au calme et au dialogue. L'Irak est plongé dans l'impasse politique depuis les élections législatives d'octobre 2021, remportées par Muqtada Sadr. Les leaders politiques ne parviennent pas à s'entendre sur le nom d'un nouveau premier ministre et depuis, le pays n'a ni nouveau gouvernement ni nouveau président.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec Mohamedou Oumfa.
Le Japon a annoncé un programme de formation des ressources humaines au profit de 300 000 personnes et des investissements de 9 milliards de dollars dans les infrastructures sur le continent africain. C'était lors de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8. Le programme de formation portera sur les secteurs de l'agriculture et de la santé. En dépit d'une détente des prix du blé après 6 mois de guerre en Ukraine, la situation pourrait basculer de nouveau. La clé du marché reste la montée en puissance des exportations de la mer Noire, a indiqué mardi le cabinet d'analyse Agritel. D'excellentes récoltes s'annoncent en Australie et au Canada, mais les productions de l'Union européenne et des États-Unis sont à peine à leur niveau quinquennal. L'industriel indien Gautam Adani est devenu mardi la 3e personne la plus riche au monde, selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Monsieur Adani, 60 ans, a fait fortune dans les ports et le commerce des matières premières. Le milliardaire autodidacte dirige aujourd'hui le 3e plus grand conglomérat de l'Inde. Il a plus que doublé l'an dernier sa fortune à 137,4 milliards de dollars, le classant juste derrière Elon Musk et Jeff Bezos dans l'indice Bloomberg après un bond de 20 places. C'est la première fois qu'un Asiatique se classe parmi les 3 premiers.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le chef de la junte guinéenne déclare la CAN 2025 projet prioritaire pour le pays.
C'est un décret du colonel Mamadi Doumbouya qui déclare d'intérêt national et prioritaire le programme d'organisation de la CAN 2025. En conséquence, toutes les dépenses pour l'organisation sont exécutées en urgence, dit le décret qui annonce l'ouverture d'un compte spécial au Trésor public. D'après ce texte, les réserves foncières affectées à la CAN sont déclarées d'utilité publique et toutes les transactions immobilières ou les travaux non dédiés à la CAN sont interdits sur les sites. Cette annonce est intervenue avant l'arrivée ce mardi en Guinée d'une mission de la CAF qui devait s'informer de l'avancement du projet sur place jusqu'à jeudi. Le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé en mars un nouveau comité d'organisation et Vincent l'ancienne équipe.
Et puis Yacouba, l'affaire Paul Pogba, son club dit préférer garder le silence.
La direction de la Juventus Turin souhaite ne faire aucun commentaire sur la situation de son joueur. Paul Pogba est au centre d'une rocambolesque affaire liée à des tentatives d'extorsion présumées à son encontre. La mère du joueur et son agente Rafaela Pimenta ont dénoncé dimanche des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée visant la star. Elles disent avoir saisi la justice il y a 1 mois en Italie et en France. Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir plusieurs fois été intimidé à Manchester, son ex-club, jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. Parmi les suspects, il affirme avoir reconnu son frère aîné Mathias, lui-même footballeur professionnel et à l'origine samedi d'une vidéo où il a promis de grandes révélations sur Paul.
Et on termine avec le tennis. Ce n'est pas encore fini pour Serena Williams.
Oui, Serena Williams a réussi ses débuts à l'US Open la nuit dernière, prolongeant le plaisir jusqu'au bout d'une cérémonie en forme d'hommage finalement prématuré. Elle a surmonté l'émotion devant 23 800 fans qui n'avaient Dieu que pour elle, malgré le spectre d'une ultime défaite, probablement synonyme de retraite, portée par The GOAT, Greatest All the Time, la plus grande de tous les temps, entendait scander dans les tribunes du coup. L'Américaine de 40 ans a fini par briller de plus belle pour battre la Monténégrine Danka Kovinic, 6-3-6-3, sous les yeux de son époux Alexi Ohanian, sa fille Olympia et un parterre de stars Mike Tyson, Lindsey Vonn, Hugh Jackman, Spike Lee, Bill Clinton, qui était président quand Williams a commencé à écrire sa légende en 1999. Serena a réussi son match, prochaine sortie demain mercredi, face à l'Estonienne Annette Kontaveit, numéro 2 mondial. Pour rappel, Serena Williams a annoncé qu'elle arrêtera sa carrière après l'US Open.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza, de retour avec vous, place au dossier du jour. En RDC, la situation est à nouveau tendue dans certains villages du territoire d'Okwamouf, dans la province de Maïndombé. Selon la société civile et les élus de la région, dans la journée de lundi, au moins 2 personnes ont été tuées à Machambio et à Toi. La société civile annonce aussi l'arrestation de quelques assaillants. Dans une conférence de presse tenue à Kinshasa ce mardi, deux élus de la région estiment qu'il y a une main noire derrière ce conflit. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati Kataï.
Depuis lundi, un regain de tension est observé dans le territoire des Kwamout. Dans le groupement Machambio, le fils du chef coutumier et son chauffeur ont été tués par des assaillants. Une autre personne aurait été tuée dans les villages Toa, à 20 km de Machambio. Une situation qui a poussé la population à fuir le village. Selon des informations recueillies ce mardi, tout le village s'est vidé de sa population qui a trouvé refuge dans le centre de Machambio. Guy Mosomo, élu de Kwamout, qui revient d'une mission dans la région, estime qu'il y a une main noire derrière cette situation.
J'estime qu'il y a une main noire. Ça, c'est dans ma réflexion. Et par rapport à tout ce que j'ai entendu lorsque nous avons reçu le couche de la population. Parce que ces couches-là n'arrivent pas à comprendre comment pendant des siècles ils ont vécu ensemble et que c'est seulement en 2022 que ce groupe-là puisse prendre des armes, puisse se rebeller derrière soi-disant redevances coutumières. Alors, ce qui paye ces redevances, ce n'est pas seulement les Yaka.
Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi à Kinshasa, deux députés nationaux, Dekwamout et Bolobo, ont lancé un appel à une prise au sérieux de ces conflits qui risquent d'embraser toute la région. Willy Bolio, député de Bolobo.
Ces gens-là sont en train de travailler en petits groupes. Ils sont maintenant à travers tous les territoires. Et maintenant, ils sont sur la grande route de Bandung. Maintenant, qu'est-ce que nous avons comme regret par rapport à l'agissement du gouvernement ? Ils sont en train de vouloir cristalliser le conflit. Pour que ça reste, on tente de résoudre ici, comme c'est le cas à l'Est. On dit toujours, on a envoyé les militaires, on a fait ceci. Mais dans l'entretemps, nous continuons à vivre la même situation. Nous n'avons pas besoin d'un autre état de siège au Maïndombé. Nous voulons qu'on termine cette affaire.
Les opérations militaires lancées sur terrain produisent déjà des fruits. Quelques assaillants ont été arrêtés par l'armée dans les forêts des villages Lidouma et Nsia, affirme Martin Fouta, de la société civile de Kwamout.
Ils étaient arrêtés depuis avant-hier, c'est aujourd'hui qu'on a fait un déplacement vers Kinshasa, parmi lesquels on avait arrêté un des leaders qui a les informations pouvant nous donner la cause de leur rébellion. Ils ont été arrêtés par le militaire venant de Kinshasa.
Au ministère de la Justice, on précise qu'il n'existe plus de magistrats à Kwamout et dans une grande partie de Maïndombé depuis l'assassinat d'un procureur à Yumbi en 2018 lors du conflit tribal entre les Batende et les Banounou. Une situation qui oblige le transfèrement de tout suspect à Kinshasa pour jugement. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le pourcentage de filles qui se marient au Nigeria avant l'âge de 18 ans est passé de 44% à 30%. Mais le Nigeria a toujours l'un des taux de mariage précoce les plus élevés d'Afrique. Un problème que les groupes d'aide s'efforcent de résoudre avec les communautés rurales. Le reportage de Timothy Obiezo depuis Benue au Nigeria. Le récit, Michel Joseph.
Dorsey Merga, 14 ans, est la plus jeune épouse d'un clan d'Alédé dans le centre de l'état de Benue. Elle sert les repas et fait le ménage dans le cadre de ses nouvelles responsabilités depuis qu'elle a emménagé avec son mari, alors âgé de 17 ans, en décembre dernier. Merga est également enceinte de 5 mois et ne peut pas utiliser une bourse pour aller à l'école depuis son nouveau domicile.
En fait, je ne suis pas heureuse parce que je ne sais pas quoi faire. Mon mari a accepté que je retourne à l'école, mais à la condition que je parte d'ici en tant que sa femme.
Merga et d'autres filles de la communauté ont reçu une bourse d'études d'un organisme à but non lucratif lancé par Janet Kaatio, une crypto-investisseuse nigériane. Kaatio a mis sur pied cette organisation à la mémoire de son défunt père qui a promu l'éducation des filles dans le village. Elle a été choquée de découvrir que Merga s'est mariée et ne va plus à l'école depuis des mois. La belle famille de Merga explique que le mariage était consensuel et que les femmes plus âgées du clan l'aident à s'en sortir. Mais Janet Kaatio estime que le mariage précoce est une préoccupation majeure dans la communauté et c'est pourquoi son association se concentre sur l'éducation des filles.
La plupart des parents n'ont pas été à l'école, alors une fois qu'une fille atteint un certain âge, ils pensent qu'elle doit être donnée en mariage. Et pas seulement pour se marier, mais aussi pour que la famille obtienne de quoi nourrir de ce mariage. Même quand nous grandissions, quand mon père nous formait, les gens nous disaient « Mais que faites-vous là ?»
L'UNICEF estime que le Nigeria est le deuxième pays où le nombre d'enfants mariés avant l'âge de 18 ans est le plus élevé au monde, juste derrière l'Inde. Les autorités affirment que l'analphabétisme, la pauvreté et les traditions locales sont les principaux facteurs à l'origine des mariages précoces. Ce mois-ci, les autorités nigérianes et l'UNICEF ont publié les conclusions d'une enquête qu'ils ont menée conjointement. Celle-ci révèle une bonne nouvelle. Entre 2016 et l'année dernière, le mariage des enfants a diminué de près d'un tiers, passant de 44% à 30%. Mais le directeur de l'UNICEF au Nigeria, Peter Hawkins, fait remarquer que parce que le Nigeria a une population croissante, le nombre total d'enfants mariés continue d'augmenter.
La population est so énorme que...
La population est tellement énorme qu'une augmentation en pourcentage, disons une réduction dans le cas du mariage des enfants, est une bonne chose. Mais le nombre des filles entrant dans cette catégorie a augmenté de façon exponentielle. Les chiffres nationaux masquent les disparités régionales.
Selon l'UNICEF, à moins que la tendance ne change et que le Nigeria n'enregistre une réduction beaucoup plus significative, quelques 29 millions de filles nigérianes seront des enfants mariés d'ici 2050. Kaatio et son équipe entendent continuer leurs efforts pour décourager le phénomène, tout en sachant que certaines filles, comme Merga, resteront liées par la tradition et les difficultés économiques.
Au Cameroun, Samuel Eto'o veut-il s'éterniser à la tête de la Fédération camerounaise de football ? La question se pose depuis le week-end dernier, après que l'Assemblée générale de l'instance fêtière du football camerounais a adopté la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la FECAFOOT. La polémique est vive, nous dit depuis Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
C'est à l'unanimité que la révision à la hausse du mandat du président de la Fédération camerounaise de football a été adoptée par les membres présents à l'Assemblée générale ordinaire.
C'est une incongruité qu'on cherche à vouloir s'éterniser à la FECAFOOT.
Abdoulaye Ado est un analyste sportif.
Le président de la FECAFOOT est élu avec d'autres. Avant d'être élu comme président au niveau fédéral, il y a... Au niveau des ligues, la ligue départementale, les ligues régionales également, qui sont des présidents. À partir de ce moment-là, la formule qu'ils ont proposée là, le président serait en haut et que les autres sont en bas comme son paillasson.
Jusqu'ici, le président de la fédération avait un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois.
L'Assemblée générale a-t-elle compétence pour augmenter le mandat d'un de ses membres? Oui.
Stéphane Edigui, président du mouvement citoyen et patriotique Let's Protect Our Stars. En français, protégeons nos étoiles.
En vertu de l'article 22 des statuts de la Fédération camerounaise de football votés le 13 juillet 2021, les statuts disent clairement que l'Assemblée générale est l'organe suprême qui peut à la fois élire, mais aussi révoquer un président. L'article 25, alinéa 18, précise également que au cours d'une Assemblée générale, un membre peut décider, lui, de faire une proposition d'amendement. Si cela est voté à l'immense majorité des membres de l'Assemblée générale, on adopte.
Dans les rues de la capitale, les avis sont partagés sur la révision à la hausse du mandat du président de l'Africa Foot. Aubin est un commerçant au marché Mokolo à Yaoundé.
Se présenter une fois au niveau de l'Africa Foot n'est pas chose très bien. Il n'y a pas que Eto'o Fils-Aucamon pour pouvoir nous diriger l'Africa Foot.
Jacques Bessala, un autre commerçant, pense le contraire.
On ne change pas l'équipe qui gagne. Personnellement, je ne vois pas son rival.
Abdoulaye Ado, un observateur du football camerounais, voit mal une suite sereine avec Samuel Eto'o.
En 8 mois, le football camerounais a fait un bond de plus de 20 ans en arrière. Les amateurs ont professionnalisé le football camerounais et les professionnels sont venus faire la professionnalisation de l'amateurisme.
L'Assemblée générale de la FECA Foot compte 73 membres. 66 étaient présents lors de l'adoption de la hausse du mandat du président de la FECA Foot. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les partisans du leader chiite Muqtada Sadr ont commencé à se retirer mardi de la zone verte après un rappel à l'ordre de leur chef. Il a fustigé le recours aux armes contre les forces de sécurité. Les violences intervenues après des mois de bras de fer avec des factions politiques pro-Iran. Pour en savoir plus, Abdulrahman Dia a joint au Québec Sami Aoun, professeur à l'université de Sherbrooke au Canada, spécialiste du Moyen-Orient.
Il y a une polarisation assez importante dans le milieu chiite, particulièrement entre les dirigeants qui sont proches de Muqtada al-Sadr, une figure bien charismatique et connue sur la scène politique irakienne, et qui prend ses distances de la politique iranienne particulièrement, et qui cherche à former un gouvernement majoritaire, puisqu'il était le gagnant des élections avec un bloc parlementaire assez substantiel de 73 députés. Par contre, ses adversaires, qui sont pro-iraniens en général, qui lui tiennent tête.
Muqtada al-Sadr continue de jouer un rôle très important dans la politique irakienne. Qu'est-ce qui fait de lui un personnage incontournable et aussi qu'est-ce qui explique sa longévité dans le champ politique irakien?
Certainement, il a une masse populaire, surtout parmi les chiites, qu'on appelle généralement dans les franges les plus misérables et pauvres dans cette communauté, et qui sont autour de Bagdad, la capitale, et qu'on appelle justement Madina al-Sadr, c'est-à-dire la ville de Sadr. Aussi, son aura lui vient de ses parents, surtout son père et son oncle, qui étaient des martyrs assassinés par Saddam Hussein, le président irakien déchu. Et sur ce point, il a bâti toute une popularité.
Ces dernières violences dans la zone verte traduisent-elles en fait une fragilité de l'État irakien aujourd'hui?
Certainement, la transition en Irak depuis 2003, après la chute de Saddam Hussein, l'invasion américaine, n'a pas été en toute douceur. C'est une transition très turbulente. Jusqu'à maintenant, l'Irak n'a pas pu regagner ni une paix civile, ni pratiquement une reconfiguration du système politique de la sorte que les Irakiens puissent y voir un changement qualitatif, surtout au niveau de leur bien-être, au niveau de la corruption. Mais il faut reconnaître encore que l'Irak est devenu, il est maintenant, disons, un lieu de guerre de procuration indirecte, de règlement de compte entre les puissances régionales, particulièrement avec l'incursion iranienne. Aussi, il ne faut pas oublier des incursions de la Turquie et surtout les tentatives de couper l'Irak de sa profondeur arabe, ce que Muqtada al-Sadr refuse.
C'était Sami Aoun, joint à Sherbrooke au Canada. Un grand merci à Joselle Morissin, Lionel Nanilagahima et Michel Claire-Joseph pour la réalisation de cette édition et la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.